Imaginons la scène, on se retrouve sur les tatamis face à ce partenaire d'entraînement. On a tous connu quelqu'un comme ça, là.
Ah, maison, le fameux prodige.
C'est ça, le genre de pratiquant qui bouge littéralement comme de l'eau. Il exécute un balayage tellement fluide, tellement parfait.
Sans aucun effort apparent.
Zéro effort. Ça semble complètement défier les lois de la physique. Fait qu'on l'arrête au milieu du rang de riz, complètement émerveillé, on lui demande le plus sincèrement du monde, genre, waouh, comment t'as fait ça?
Ouais, la fameuse question.
C'est quoi le détail technique qui m'échappe? Et là, ben, il nous regarde avec un air un peu confus. Il hésite, il cherche ses mots.
Parce qu'il ne sait pas lui-même.
Exact. Il lâche un truc vague du genre, ben, je sais pas trop, j'ai juste senti ton poids basculer puis j'ai poussé avec ma hanche. Fin de l'explication.
Ce qui est super frustrant.
Vraiment. On repart de la bredouille avec la forte impression que ce gars-là pratique carrément de la magie noire.
Mais ce qui est fascinant ici, c'est qu'on touche à un point fondamental. Ce paradoxe-là, ça n'a absolument rien à voir avec de la magie.
Ni avec un gars qui veut cacher ses secrets, j'imagine.
Non, pantoute. C'est en fait un phénomène neurologique qui est extrêmement bien documenté. L'incapacité d'un expert à verbaliser ce que son corps fait avec une précision chirurgicale, ben, c'est littéralement la preuve qu'une compétence est devenue complètement automatique.
OK, donc son cerveau a comme passé la vitesse supérieure.
Exactement. Le cerveau a transféré l'exécution du mouvement vers des régions qui échappent à notre conscience explicite. Fait qu'il n'a plus accès aux mots pour l'expliquer.
Parce qu'il n'utilise plus la partie du cerveau qui gère le langage pour faire le mouvement, c'est ça?
C'est en plein ça. C'est automatisé.
Et c'est exactement pour décortiquer ce genre de phénomène-là qu'on lance aujourd'hui cette toute première édition publique de Radio JJS.
Une belle mission.
Ouais. L'objectif, pour vous tous à l'écoute, que vous soyez pratiquants, entraîneurs ou même des parents de l'école JJSU Saguenay, c'est de prendre les recherches, les documents de référence sur l'apprentissage moteur, puis de traduire tout ça.
Parce que c'est souvent très académique.
Très lourd, oui. Mais on aborde un domaine qu'on connaît tous de manière super intuitive. Dès qu'on essaie de perfectionner une projection, un passage de garde ou un étranglement, ben on est en plein dedans.
Complètement.
Mais on réalise pas toujours que c'est pas juste du folklore de Tojo, tu sais, ou des vieilles traditions transmises oralement. C'est une véritable science.
Très structurée, même.
Avec plus de 60 ans de recherche rigoureuse derrière elle. Fait que plongeons là-dedans.
Et c'est une distinction cruciale à faire dès le départ. Parce que pendant des siècles, le savoir sur le mouvement humain, que ce soit dans les arts martiaux, la danse, la gymnastique, ça a été transmis exclusivement de maître à élève.
Par la simple démonstration, genre « regarde-moi faire, puis copie ».
Voilà. C'est une méthode qui a évidemment fait ses preuves, on s'entend, mais elle reposait presque entièrement sur l'intuition. Le problème, c'est que l'intuition d'un bon coach, même quand elle est excellente, bien, ça reste une boîte noire.
Qu'est-ce que tu veux dire par une boîte noire?
Bien, on observe le résultat, on voit que l'élève s'améliore, mais on ne sait pas toujours pourquoi la méthode fonctionne au niveau neurologique.
Ah, OK. On voit que ça marche, mais on ignore la mécanique en dessous. Fonctionné pendant des centaines d'années par la simple observation puis la répétition, et qu'elle a produit des samouraïs puis des champions du monde.
Ouais, des athlètes incroyables.
C'est ça. Pourquoi est-ce qu'on a soudainement eu besoin de faire entrer des psychologues, des physiologistes puis des neuroscientifiques dans l'équation à partir des années 60? Qu'est-ce qu'ils espéraient trouver de plus qu'un maître d'arts martiaux ne savait pas déjà par expérience?
C'est une question tout à fait légitime. Le gros point aveugle de l'intuition et de la tradition, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant.
Le biais du survivant.
Oui. Dans les dojos traditionnels, on voit les champions qui ont émergé de la méthode, mais on ne voit pas les centaines d'autres élèves qui ont abandonné.
Ah, ceux pour qui ça n'a pas marché du tout.
C'est ça, parce que la structure d'entraînement ne correspondait pas du tout à la façon dont leur système nerveux apprend. Fait que la science de l'apprentissage moteur est née pour pallier ce manque de cadre théorique unifié.
Pour avoir des données réelles.
Exact. Sans théorie, comment on fait pour comparer objectivement deux méthodes? L'apprentissage moteur, c'est l'étude systématique de la façon dont le corps humain apprend, raffine et automatise les mouvements volontaires.
Et ça, ça a commencé dans les laboratoires.
Oui, à partir des années 60, en utilisant les protocoles de la psychologie expérimentale, on a sorti ça de l'anecdote. On a commencé à mesurer objectivement le temps de réaction, l'erreur spatiale et surtout...
Ce qui nous intéresse le plus.
Vraiment. Surtout, la rétention de la mémoire motrice à long terme.
Donc, au lieu de simplement dire à un élève « fais-le 100 fois et tu vas finir par le sentir », la science nous permet de tester des scénarios hyper pointus.
Totalement.
Par exemple, je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux faire ces 100 répétitions d'un coup le mardi soir ou 20 répétitions par jour réparties sur toute la semaine?
C'est exactement le genre de questions qui se posent et c'est ce genre de détail qui va faire la différence entre une technique qui s'efface après 2 jours...
Et une technique qui sort toute seule.
Voilà, par réflex, en compétition, 6 mois plus tard. On cherche plus seulement à savoir si une technique fonctionne biomécaniquement, on cherche à comprendre comment le système nerveux s'adapte à la façon dont on la pratique.
C'est un changement de paradigme complet.
Et c'est un domaine tellement vaste qu'il a fallu le diviser pour l'étudier correctement. Fait que la science identifie aujourd'hui 3 branches fondamentales du mouvement humain.
OK, les 3 branches.
Et c'est là que ça devient critique pour les entraîneurs et les athlètes. Si on confond ces 3 branches-là, on fait des erreurs majeures dans la programmation de nos entraînements.
J'ai une analogie technologique pour essayer de visualiser ces 3 branches. Dis-moi si ça tient la voûte.
Je t'écoute.
Si on imagine que le corps et le cerveau fonctionnent comme un système informatique, on pourrait diviser ça en 3 aspects. Premièrement, l'exécution d'un programme en temps réel.
OK.
Deuxièmement, la mise à jour logicielle qui se fait en arrière-plan. Et troisièmement, le vieillissement ou la mise à niveau du matériel physique lui-même au fil des années. Est-ce que ça correspond à la réalité scientifique?
L'analogie est remarquablement précise. Si on prend le premier point, l'exécution du programme en temps réel, c'est ce qu'on appelle le contrôle moteur.
Le contrôle moteur, OK.
C'est véritablement l'étude du présent, de la milliseconde actuelle. L'objectif de cette branche, c'est de comprendre comment le système nerveux central et le système musculo-squelettique se coordonnent maintenant face à une contrainte.
Fait que si on prend un exemple typique sur les tatamis.
Oui, un grappleur qui essaie de passer la garde, par exemple.
Ouais, son adversaire se laisse pas faire, tu sais. Il encadre avec ses bras, il pousse avec son genou, il change l'angle de ses hanches.
Le contrôle moteur, c'est la façon dont le cerveau du grappleur capte ses retours sensoriels-là.
La proprioception, puis tout ça.
Exact. Et comment il ajuste instantanément sa pression, l'angle de sa base, la tension dans ses muscles pour ne pas perdre l'équilibre, c'est de la gestion de crise immédiate.
C'est fou d'y penser comme ça. Parce que ça implique un traitement de données absolument massif de la part du cerveau.
Et à une vitesse incroyable.
Vraiment. Puis tout ça sans qu'on ait le temps de formuler une seule pensée consciente. Donc, le contrôle moteur gère l'urgence du moment. Mais réagir à la seconde, ben ça suffit pas pour devenir ceinture noire.
Non, il faut que ça reste.
Il faut que cette réaction s'imprime pour être plus efficace la prochaine fois. Ça nous amène à la fameuse mise à jour du logiciel.
Tout à fait. Et ça, c'est l'apprentissage moteur à proprement parler. C'est la branche qui s'intéresse au devenir.
Au futur, donc.
Oui. La question centrale, c'est comment l'expérience, les essais et les erreurs modifient durablement la capacité d'une personne à réaliser un mouvement à l'avenir.
OK, donc l'impact de la pratique.
C'est le processus neurologique par lequel une heure de pratique très difficile aujourd'hui...
C'est une heure où on a l'impression d'être maladroit puis de tout rater.
Exactement. Mais cette heure-là va se traduire par des connexions neuronales plus fortes, plus denses, ce qui va rendre le mouvement beaucoup plus fluide et économique demain ou la semaine prochaine.
C'est littéralement la réécriture du code, quoi.
Pour optimiser la performance future, oui.
D'accord. Fait que ça couvre le présent puis le futur. Mais j'imagine que le facteur de l'âge doit entrer en jeu. On n'enseigne pas une roulade arrière à un enfant de la même manière qu'à un adulte de 40 ans qui n'a jamais fait de sport.
Ça serait une mauvaise idée, ouais.
C'est ça ton 3e point, toi?
Le matériel physique.
Exactement. C'est le développement moteur. Cette branche-là observe comment nos capacités motrices évoluent à travers les différents stades de la vie en lien avec la maturation physique du corps puis du cerveau.
Fait que l'évolution naturelle.
C'est ça. Pourquoi un enfant de 8 ans qui commence le jiu-jitsu développe sa perception spatiale d'une manière totalement différente d'un adulte de 35 ans?
Parce qu'ils n'ont pas le même cerveau, dans le fond.
Leur système nerveux n'en sont tout simplement pas à la même étape de plasticité et leurs proportions corporelles différent grandement. Un entraîneur doit absolument adapter son approche selon le stade de développement moteur de son groupe. C'est fascinant parce que cette cartographie en 3 branches, le contrôle pour le présent, l'apprentissage pour le futur, puis le développement pour l'âge, ben ça nous amène directement au plus gros piège dans lequel on tombe à peu près tous au dojo.
Ah oui, le fameux piège.
Et selon les documents qu'on a analysés, c'est la confusion fatale entre la performance et l'apprentissage. Laisse-moi planter le décor pour ceux qui nous écoutent.
On t'écoute.
On est mardi soir, c'est l'heure des randonnées, puis c'est la catastrophe totale.
La soirée où rien ne marche.
Rien pantoute. On rate nos ouvertures, notre garde se fait passer comme dans du beurre, on a le cardio qui lâche, on se sent lourd, lent, sans aucune inspiration.
Ça arrive au meilleur.
On rentre chez soi avec l'ego en miettes en se disant « c'est fini, je régresse, mon jiu-jitsu de pire en pire ». La question, c'est, est-ce que cette conclusion d'après-entraînement est fondée?
Si on regarde ça à travers la loupe de la science du mouvement, la réponse est un non catégorique.
Ah, ça, c'est rassurant.
Et c'est peut-être le concept le plus important qu'on va aborder aujourd'hui. Ce qui se passe sur les tatamis ce mardi soir-là, ce qu'on observe à l'œil nu, c'est la performance.
OK, juste la performance.
Et la définition scientifique de la performance, c'est un comportement observable à un instant précis.
Le problème, c'est que, par sa nature même, la performance est extrêmement volatile.
Elle monte et elle descend.
Tout le temps. Elle est affectée par une quantité phénoménale de variables externes et internes. Le niveau de fatigue physique, le stress psychologique accumulé au travail, la mauvaise journée au bureau qui te suit sur le tapis.
Tellement. La qualité du sommeil de la veille, le niveau d'hydratation, la motivation du moment, ou même genre la température dans le dojo.
D'accord. Je comprends l'idée de se donner un peu de grâce les mauvais soirs, mais je vais te challenger là-dessus.
Vas-y.
Soyons réalistes une seconde. Si un pratiquant se fait écraser tous les mardis soirs pendant 6 mois, à chaque randori, là...
Ouais, là, c'est différent.
On s'entend qu'on peut plus juste blâmer le manque de sommeil, le patron toxique ou la chaleur. À quel moment est-ce que cette mauvaise performance devient le signe d'une réelle stagnation de l'apprentissage?
C'est une excellente nuance. Et c'est exactement là que la science trace la ligne. La différence se trouve dans l'échelle de temps et dans les conditions d'évaluation.
OK.
L'apprentissage, contrairement à la performance immédiate, s'est défini comme un changement interne, neurologique, relativement permanent.
Donc, ça doit durer dans le temps.
Exact. Et ce changement-là, il est invisible à l'œil nu sur le moment. Si un pratiquant stagne pendant 6 mois, alors oui, on fait face à un problème d'apprentissage ou de méthode d'entraînement.
Le programme ne marche pas dans ce cas-là.
C'est ça. Mais le piège classique, c'est d'évaluer la qualité de son apprentissage ou l'efficacité de l'entraîneur sur la base d'une seule séance.
Ce qui veut dire que le ressenti immédiat n'est pas un indicateur fiable de ce qui se passe dans le cerveau.
Pas du tout.
Et j'imagine que l'inverse est tout aussi vrai, non?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Bien, parfois, pendant un exercice technique, on répète le même mouvement en boucle sans résistance. Disons un passage de garde de Toriando.
Ouais, la pratique bien propre.
Après 20 répétitions, on se sent imbattable. C'est fluide, c'est beau, la performance est parfaite. On se tape dans les mains en se disant qu'on a tout compris. Mais est-ce qu'on a réellement appris la technique?
C'est le revers de la médaille et c'est ce qui trompe le plus d'entraîneurs dans le monde du sport. Structurer un entraînement pour maximiser la réussite immédiate...
C'est mal.
Ben c'est ce qu'on appelle la pratique bloquée, où on répète la même chose du même côté 50 fois de suite. Ça génère une performance artificielle très élevée à la fin du cours.
L'élève a l'air compétent, tout le monde est content.
L'entraîneur se sent super compétent aussi.
Okay.
Mais la littérature scientifique est unanime. Ce type de pratique produit une rétention désastreuse.
Désastreuse, à ce point-là.
Oui. Si le système nerveux n'est pas mis en difficulté, il ne ressent pas le besoin de s'adapter et de se réorganiser profondément.
D'où l'importance de ce fameux test de rétention dont parlent les chercheurs dans les documents. C'est un peu le juge de paix de l'apprentissage moteur, finalement. Comment ça fonctionne exactement dans un labo?
Le test de rétention, c'est la seule façon valide de mesurer si un apprentissage a eu lieu. Concrètement, au lieu d'évaluer l'athlète à la fin de sa séance d'entraînement, on attend.
On le laisse partir chez lui.
C'est ça. On laisse passer 24 heures, 48 heures ou même 2 semaines sans aucune pratique de ce mouvement spécifique. Ensuite, on évalue la capacité de l'athlète à reproduire la compétence.
À froid, sans s'être pratiqué juste avant.
Exact. Et encore mieux, on utilise un test de transfert. On change légèrement les conditions. On ajoute une résistance imprévue, on modifie la prise.
Pour voir s'il peut s'adapter.
C'est seulement là qu'on peut voir si le système nerveux a véritablement encodé la solution motrice de façon robuste ou si la réussite du mardi n'était qu'un vernis temporaire lié au fait que le mouvement venait tout juste d'être répété en boucle.
C'est fou! Ça change complètement notre rapport à l'entraînement. La valeur d'une séance ne se mesure pas au nombre de soumissions qu'on réussit le soir même.
Non, vraiment pas.
Mais à ce qui va rester gravé dans notre système nerveux le mois prochain. Mais... ça soulève une question technique.
Oui.
Puisque tu dis que cet apprentissage est un changement neurologique invisible à l'œil nu, comment est-ce que les scientifiques font pour le voir? C'est là qu'on plonge un peu sous le capot. Puis franchement, les outils utilisés aujourd'hui, on est loin du coach avec son chronomètre puis sa petite planchette à pince, là.
Ah, c'est certain. L'arsenal technologique a fait des bonds de géant. Les chercheurs utilisent aujourd'hui des méthodes très pointues pour cartographier le mouvement et le cerveau. D'abord, il y a la cinématique.
Ça, c'est avec les caméras, hein?
Oui. On équipe les athlètes de capteurs infrarouges ou de marqueurs réfléchissants. Un peu comme on le fait pour créer les animations de personnages dans les jeux vidéo.
Ah ouais, les petits points blancs sur la combinaison noire.
C'est ça. Ça permet aux ordinateurs de modéliser géométriquement cette articulation en 3D pendant le mouvement. Fait qu'on peut voir au millimètre près si un bassin pivote une fraction de seconde trop tard lors d'une projection.
C'est d'une précision incroyable. Mais ce qui m'a vraiment fasciné dans les notes qu'on a analysées, c'est la façon dont ils mesurent l'électricité dans les muscles avec l'EMG, l'électromyographie.
Un outil redoutable.
Comment on applique ça pour comprendre l'apprentissage martial?
Bien, on place de petites électrodes sur la peau pour capter le signal électrique que le système nerveux envoie au muscle juste avant sa contraction.
Fait qu'on lit le message du cerveau vers le muscle.
Exact. Et ça nous permet de révéler des défauts qui sont autrement invisibles. C'est particulièrement éclairant pour comprendre la différence entre un novice et un expert. Chez un débutant qui tente un mouvement complexe, l'EMG va souvent détecter un phénomène qu'on appelle la co-contraction.
Ah! Laisse-moi te donner une image du dojo pour ça. La co-contraction, c'est exactement ce qui explique pourquoi une nouvelle ceinture blanche qui essaye de finaliser une clé de bras a l'air de forcer à 200%.
Ouais, le visage tout rouge.
C'est ça. Il s'épuise en 40 secondes, alors que la ceinture noire fait exactement la même chose en ayant l'air de s'ennuyer.
C'est un excellent exemple.
Fait que la ceinture blanche contracte les muscles pour tirer et les muscles pour pousser en même temps. Son corps se bat littéralement contre lui-même, c'est ça?
C'est exactement ça. Biomécaniquement parlant, les muscles agonistes et antagonistes s'activent simultanément. C'est une stratégie de protection du système nerveux face à la nouveauté.
Il a peur, donc il se fige.
Il rigidifie l'articulation par précaution. Ce que l'EMG nous montre, c'est qu'avec l'apprentissage à long terme, le système nerveux devient plus confiant. Il apprend à relâcher complètement le muscle antagoniste à la milliseconde près où l'agoniste doit agir.
Donc, le muscle opposé arrête de résister.
Il devient électriquement silencieux. C'est cette inhibition parfaite qui crée cette impression que l'expert bouge comme de l'eau. Il ne génère plus aucune friction interne.
Donc, la fluidité, c'est pas juste un concept philosophique ou poétique des arts martiaux, là. C'est littéralement l'absence mesurable d'activité électrique parasitaire.
Exact. C'est de la pure science. Et on peut aller encore plus profond, direct à la source du signal dans le cerveau.
Avec les gros scanners, hein?
Oui, avec des méthodes neurophysiologiques comme l'électroencéphalographie, l'EEG ou l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'IRMF. On peut voir quelles zones du cerveau consomment de l'oxygène pendant qu'un athlète bouge ou même s'il s'imagine bouger.
Et qu'est-ce qu'on voit de différent chez les athlètes de haut niveau?
La grande découverte, c'est que l'architecture fonctionnelle du cerveau d'un expert est fondamentalement différente. Chez le débutant, on voit une activation massive du cortex préfrontal.
Le cortex préfrontal, c'est la partie consciente, celle qui réfléchit puis qui planifie, c'est ça?
Oui, exactement. Le novice doit consciemment se dire « OK, je place ma main ici, je recule mon bassin, je pivote sur mon pied. »
Il se marre à lui-même.
Et le problème du cortex préfrontal, c'est qu'il est lent et qu'il consomme énormément d'énergie métabolique, c'est-à-dire de glucose et d'oxygène. C'est pour ça qu'apprendre une nouvelle technique, ben c'est mentalement épuisant.
Sors du croupi dans la tête qui tourne presque.
C'est ça. Par contre, chez l'expert qui a automatisé le mouvement, cette zone du cortex préfrontal s'éteint presque complètement. L'activité électrique se déplace vers le bas, vers les ganglions de la base et le cervelet.
Ces zones-là font quoi au juste?
Ces régions gèrent les habitudes et la motricité fine de manière inconsciente. Elles sont foudroyantes de rapidité et consomment très peu d'énergie.
Ce qui explique pourquoi le gars de notre intro ne savait pas comment il avait fait son balayage.
Exact! Son mouvement a été exécuté par ses ganglions de la base, loin de son esprit conscient.
Et ce qui est d'autant plus intéressant pour nous pratiquants, c'est que toute cette technologie de laboratoire n'est pas restée coincée dans des articles universitaires poussiéreux.
Non, ça commence à vraiment percoler sur les tapis.
Vraiment. Ça a des applications concrètes aujourd'hui. On voit une vraie révolution pédagogique dans le jiu-jitsu à haut niveau. Des entraîneurs comme John Danaher, puis surtout Greg Zuders, appliquent très précisément ces principes-là.
Oui, avec ce qu'ils appellent l'approche écologique dynamique.
C'est ça. Comment on traduit cette approche-là concrètement dans un cours d'entraînement?
L'approche de Greg Souter, c'est une traduction directe de cette science en méthodologie d'entraînement. Traditionnellement, un coach démontre une séquence précise et dit « reproduisez exactement ces étapes ».
Ce qui sature le cortex préfrontal, comme tu disais.
Exact. C'est très cognitif. L'approche écologique dynamique, au contraire, utilise des jeux sous contrainte. L'entraîneur ne donne pas la solution biomécanique, il fixe un but et impose une limite.
Genre, tu dois faire ça, mais t'as pas le droit de faire ci.
Voilà. Par exemple, au lieu d'enseigner un renversement précis, il va dire « Tu dois passer de la position inférieure à la position supérieure, mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes mains pour saisir le kimono. »
Mais comment cette contrainte-là force le cerveau à mieux apprendre, au lieu de juste frustrer l'élève?
En retirant l'outil principal de l'athlète, ses mains, on bloque la voie neurale habituelle. Le système nerveux est forcé de trouver une nouvelle solution motrice pour atteindre l'objectif.
Puis il n'a pas le choix de s'adapter.
Il doit s'auto-organiser. L'athlète va commencer à utiliser l'angle de ses hanches, la pression de son front, le mouvement de ses jambes, de façon purement exploratoire.
Fait que le focus de l'élève est orienté vers l'extérieur. Atteindre le but, plutôt que de penser à la mécanique interne de son propre corps.
Exactement. Et les études montrent que les solutions motrices découvertes par auto-organisation face à des contraintes sont beaucoup plus résilientes sous pression que les solutions copiées visuellement.
C'est fou de penser que le simple fait d'enlever un outil force le corps à devenir plus intelligent.
C'est la beauté du système nerveux.
On passe d'un enseignement où on donne la réponse à un enseignement où on crée un problème que le corps doit résoudre. Puis ce qui prouve la solidité de cette science-là, c'est qu'on retrouve exactement ces mêmes principes dans un contexte complètement différent.
La réhabilitation, oui.
C'est ça. J'ai lu dans les notes de l'analyse que c'est la même chose pour la réhabilitation clinique des survivants d'accidents vasculaires cérébraux, les AVC.
C'est l'aspect le plus fascinant. Les lois de l'apprentissage moteur seront universelles parce que l'architecture du système nerveux humain, bien, c'est la même pour tout le monde. En clinique, si on veut aider un patient post-AVC à réapprendre à saisir un verre d'eau, les physiothérapeutes modernes n'utilisent plus des répétitions isolées et monotones de l'articulation.
Ils ont abandonné la pratique bloquée aussi.
Oui. Ils utilisent des contraintes, ils varient la forme des objets, ils placent le but dans l'environnement plutôt que de demander au patient de penser à son coude.
C'est brillant.
Les principes de quantité, de pratique, de transfert puis de variabilité s'appliquent avec la même rigueur scientifique que vous cherchiez à retrouver l'usage d'une main ou à passer une garde inversée compliquée.
C'est vraiment une belle perspective pour clore notre analyse d'aujourd'hui. Faisons une petite synthèse pour ceux qui nous écoutent. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette plongée dans la science du mouvement, c'est que l'apprentissage ne se juge pas sur le moment.
Jamais sur une seule séance.
Il faut séparer l'idée de la performance immédiate, qui va toujours fluctuer selon votre fatigue ou votre stress, de l'apprentissage durable. Un mardi soir frustrant au dojo n'est pas une régression, c'est une fluctuation de surface.
Une simple mauvaise performance.
C'est ça. Ce qui compte vraiment, c'est ce qui se passe sous le capot. Cette modification lente de vos réseaux neuronaux qui se forge à travers les erreurs et les difficultés.
Exactement. Et ça, ça prépare parfaitement le terrain pour la suite de nos émissions sur Radio JJS.
Ah oui? Parce qu'on n'a pas fini.
Non, parce que la science nous réserve des principes pédagogiques encore plus contre-intuitifs. La prochaine fois, on explorera le modèle de Fitz et Posner et on verra surtout pourquoi les études prouvent qu'un entraînement aléatoire et chaotique qui donne l'impression de mal faire les choses.
Ce qui est terrible pour l'ego.
Oui, mais qui est en réalité largement supérieur à une pratique bien ordonnée pour ancrer une compétence. On verra même pourquoi les meilleurs entraîneurs au monde donnent volontairement moins de corrections verbales à leurs athlètes pour maximiser leur potentiel.
Moins de corrections, ah oui. Ça promet de bousculer encore pas mal d'habitudes.
C'est garanti.
En attendant la suite, je vous laisse sur cette réflexion. Si on sait maintenant qu'une performance parfaite à l'entraînement ne garantit en rien l'apprentissage profond,
ouais,
et que les méthodes qui modifient vraiment votre cerveau sont celles qui créent de la difficulté puis qui vous font faire des erreurs, ben est-ce que chercher absolument à être parfait, à avoir l'air bon pendant un exercice, ce n'est pas le meilleur moyen de saboter votre propre progression sur le long terme? Pensez-y au prochain randori.
C'est une excellente question à se poser.
Et souvenez-vous que le but ultime de notre art martial n'est pas d'être capable de donner une conférence détaillée sur une technique, mais de l'avoir tellement intégrée que l'explication n'est plus du tout nécessaire. Merci de nous avoir suivis pour cette plongée au cœur du mouvement et bonne pratique à tous sur les tatamis.